France Inter.
Oui, monsieur Vidard, François Duberry. J'écoute sur France Inter les pubs Picard avec le gigot d'agneau à 9,99€ pour Pâques. C'est formidable. Moi, je suis éleveur de brebis, d'agneaux. J'ai un petit troupeau. Bah, ça m'interpelle parce que produire du gigot d'agneau à 9,99€, bah, pour tout éleveur français qui se respecte, vaut mieux rester couché, quoi. Voilà, pas plus. C'était le petit coup de calcaire du jour. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Sandra de Val-Sébain en Ardèche. J'appelle pour réagir sur l'émission sur la bifurcation. Je voulais juste préciser que, à mon sens, il faut vraiment engager les politiques parce qu'on ne peut pas faire porter la responsabilité sur chaque individu. Il y a trop de domaines sur lesquels il faut être ultra compétent, sur l'alimentation, les pesticides, les plastiques, comment s'habiller, la provenance de tout ce qu'on consomme. Voilà, c'est vraiment très compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit centralisé auprès des personnes compétentes. Et le deuxième point qui me paraît important sur l'implication de l'État, c'est que en fait, il rate l'opportunité de mener un grand projet qui fédère l'ensemble de la population. Enfin, il y a tellement de choses chouettes à faire dans cette bifurcation écologique. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée et merci pour vos émissions.
Bonjour, c'est Stéphane du collectif Non au parking silo à Angers. Je vous appelle concernant donc un projet de parking de la municipalité qui s'entête depuis des mois, voire des années, à construire ce parking en centre-ville au pied du château. Et donc il y a 8 ormes qui ont été abattues en pleine période de nidification. Et donc plusieurs collectifs environnementaux sont vent debout et il y a aussi un grand intérêt de patrimoine historique puisque on pourrait faire des fouilles à cet endroit. C'est un quartier avec des petites ruelles étroites très tranquilles. Tout ceci est aberrant dans la ville du ministre de l'écologie, Monsieur Béchu, qui a initié ce parking. Et merci à vous, Mathieu et Camille, pour vos émissions.
Bonjour à tous, c'est Sylvie des Yvelines. Je voulais vous faire part de l'arrêté du 28 décembre 2023 qui autorise maintenant la chasse aux sangliers 12 mois sur 12, qui réintroduit la chevrotine interdite en 1986 car jugée trop dangereuse et non éthique. Cet arrêté permet aussi de tirer en pleine récolte agricole et donc de rabattre les animaux avec des engins vers une zone de tir, alors que la loi interdit d'utiliser tout engin automobile ou agricole. Et en parallèle, on autorise la vente des cartouches en bureau de tabac. La majorité de la population est contre la chasse. Allez voir sur le site de l'ASPAS, qui donne beaucoup d'informations utiles sur la faune sauvage, loups, renards, blaireaux, oiseaux et j'en passe, et qui montre une belle et forte mobilisation. Au revoir et à bientôt.
Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de chasse sur ce répondeur. Merci en tout cas pour vos appels. Continuez à nous appeler 01 56 40 45 45. Le 7 février dernier, le Parlement européen donnait son feu vert aux NGT, les nouvelles techniques génomiques aussi appelées nouveaux OGM. Les eurodéputés ont voté en faveur d'un assouplissement de l'encadrement des semences végétales issues de ces NGT. Même si un consensus doit être encore trouvé, cette technologie présentée comme plus simple, plus adaptée aux risques climatiques et permettant de limiter l'utilisation de pesticides est fortement décriée par les associations environnementales. Il y a quelques jours, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail incitait dans un rapport les pouvoirs publics à prendre les mêmes précautions qu'avec les OGM de première génération issus de transgénèse. Alors, danger ou progrès scientifique, pourquoi les NGT suscitent la controverse au sein même du milieu scientifique? Pour y voir plus clair, la Terre au carré aujourd'hui avec nos trois invités que je vous présente, avec nous en studio Frédéric Jacquemart et François Parcy. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir fait le chemin jusqu'à nous aujourd'hui. François, Frédéric Jacquemart, vous êtes docteur en biologie, administrateur de France Nature Environnement et membre du conseil d'administration et du comité de dialogue biotechnologie, environnement et santé de l'ANSES. François Parcy, vous êtes directeur de recherche au CNRS en biologie végétale, spécialiste de la génétique moléculaire du développement des fleurs au sein du laboratoire de physiologie cellulaire et végétale de Grenoble. Vous avez publié dans Le Monde en octobre dernier avec des confrères une tribune en faveur de ces nouvelles techniques génétiques. Et puis nous sommes en ligne avec vous, Vanessa Mermet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des campagnes de l'ONG Polynis, également membre du comité de dialogue sur les biotechnologies de l'ANSES. On se retrouve donc dans un instant pour comprendre les enjeux de ces nouveaux OGM et vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent sur la page de la Terre au Carré et sur nos réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Direction les Alpes, un festival de musique électronique s'est terminé ce week-end, Tomorrowland Winter. C'était la 4e édition et ça ne plaît pas à tout le monde, les tuffeurs insouciants au milieu d'un des paysages symboles du réchauffement climatique.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée par Chantal Le Montagnier avec Jérôme Ragano avec nous aujourd'hui à la technique.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Le Parlement européen a voté en faveur d'une réglementation plus souple quant à l'utilisation sur les plantes des NGT, les nouvelles techniques génomiques. Certains experts affirment que notre système alimentaire pourrait devenir plus durable grâce à ces NGT. Les plantes pourraient devenir plus résilientes aux changements climatiques et aux espèces nuisibles. En Europe, cette méthode est actuellement réglementée de la même manière que les OGM. Pour autant, certains agriculteurs considèrent ces plantes modifiées par NGT comme potentiellement nocives pour l'agriculture.
Voilà, c'était Euronews le 8 février dernier, donc juste avant le vote du Parlement européen. Que sont vraiment donc ces nouvelles techniques génomiques, dossier de la Terre au Carré? François Parcy, on s'embarque directement dans le sujet. Comment ont émergé d'abord ces NGT? Comment elles sont apparues?
Ces NGT, elles sont apparues principalement, il y avait eu des balbutiements avant, mais elles sont apparues principalement avec l'émergence des ciseaux moléculaires. Donc c'est la technologie qu'on appelle CRISPR-Cas9, qui a valu le prix Nobel à Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier. Et donc c'est la possibilité d'aller introduire des mutations dans le génome d'un organisme, les plantes en particulier, à ouais. des endroits qu'on aura choisis.
Donc comme les OGM traditionnels, ceux de première génération, on modifie donc génétiquement une espèce, mais qu'est-ce qui les distingue quand même justement de ces premiers OGM?
C'est très différent des OGM de première génération dans la mesure où une des façons de l'utiliser, c'est ce qu'on appelle les NGT1, ça consiste simplement à introduire des mutations. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas apporter de l'ADN étranger venu d'une autre espèce, on modifie
le
génome.
On reste dans la plante, par exemple. On reste dans le génome de la plante.
On reste dans le génome de la plante.
Et donc, les premiers OGM, ce n'était pas le cas?
Les premiers OGM, ce n'était pas le cas parce qu'en fait, les plantes transgéniques, hein, les premiers OGM, c'est les plantes transgéniques, on peut... grâce à cette technologie, apporter de l'ADN étranger. Et d'ailleurs, les grandes catégories d'OGM qui ont été produites, effectivement, on a introduit des ADN étrangers pour les rendre soit résistantes aux herbicides, oui. soit productrices d'insecticides.
Vanessa Mermet, pour vous, ces NGT, là, ce sont des OGM bis ou il faut quand même faire la distinction?
Alors, la Cour de justice de l'Union européenne, elle a décidé en 2018 que c'était des OGM, c'est-à-dire que ce sont des plantes qui sont génétiquement modifiées en utilisant d'autres types de techniques que la transgénèse. Mmh. Néanmoins, selon la Cour de justice, le cadre réglementaire qui encadre les OGM actuellement en Europe s'applique, doit aussi s'appliquer à ces NGT.
C'est donc la raison pour laquelle on les appelle les nouveaux OGM, hein, et qu'on voit ce terme un petit peu partout. C'est un terme que vous critiquez, François Parcy, ou pas?
Moi, je ne l'utilise pas, mais je le critique pas spécialement. Je pense qu'on peut rajouter quand même, c'est que la Commission européenne a aussi jugé que les plantes qui ont subi des mutagénèses aléatoires, des mutagénèses chimiques ou à base de rayons, ce sont aussi des OGM, mais ce sont des OGM non régulés. Donc la grande question qui va se poser, c'est de quelle façon on doit réguler ces nouveaux OGM. Ouais.
Alors, quelle est la promesse, justement, de ces NGT aujourd'hui? Dans un monde idéal, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette technologie, François Parcy?
Moi, je pense que pour juger de la promesse, il faut se pencher un peu sur le passé et toute l'histoire de la domestication des plantes pour les adapter aux besoins des êtres humains, ça consiste à combiner des mutations. Mmh. Et ça, on le fait depuis 10 000 ans, ça s'est accéléré de façon de plus en plus sophistiquée. Et donc, aujourd'hui, on peut utiliser une nouvelle technique simplement pour aller plus vite. Au lieu de le faire de façon complètement aléatoire, on peut le faire de façon ciblée. Alors, on peut citer vraiment beaucoup d'exemples, mais... Une des choses qui, à mon avis, est les plus saillantes, c'est la résistance à ce qu'on appelle les pathogènes, les maladies. Résistance aux virus, aux bactéries, aux champignons. Et ces NGT offrent des opportunités en matière de défense des plantes en utilisant moins de pesticides.
Donc ce que vous dites, c'est que finalement, depuis la nuit des temps, les humains font de la sélection végétale sur le temps long et que la différence finalement aujourd'hui notable, c'est que ces NGT, ça nous permet de reprendre le même procédé, mais sur un temps beaucoup plus court.
Et en se basant sur une connaissance ouais. et non plus au hasard.
Frédéric Jacquemart, précisément, le fait d'aller beaucoup plus vite aujourd'hui avec cette technologie, ça pose problème selon vous?
Mais ça pose énorme problème parce que justement, on oublie une chose, c'est que Nous vivons dans des systèmes complexes qui ont une organisation. Et si nous sommes là, c'est parce que cette organisation permet la cohésion des éléments du système. Et la moindre des choses serait de se préoccuper des conditions qui permettent le maintien de cette cohésion. La vitesse d'évolution d'un système fait partie des paramètres essentiels de cette organisation. Si vous l'accélérez ou vous la ralentissez d'une manière significative, vous altérez ce qui est notre possibilité de vie. Et donc, il y a un peu de légèreté à dire « youpi, on va plus vite ». C'est une question qui devrait être traitée en elle-même. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas accélérer l'évolution. Encore une fois, tout est une question de quantité. Prendre un gramme sur la tête, prendre une tonne sur la tête, c'est pas le même phénomène en plus fort, c'est complètement autre chose.
Donc là, vous dites qu'avec cette technologie, il y a une accélération au fond du processus d'évolution qui pose problème en lui-même.
Mais absolument, les biotechnologies ne sont pas les seules technologies à accélérer l'évolution à la fois de la société et des écosystèmes, parce que ce sont deux systèmes complexes qui sont parfaitement intriqués et interdépendants, mais cela fait partie de cet esprit, de ce paradigme dominant où l'analytique domine et où finalement tout ce qui concerne l'essentiel, c'est-à-dire la vie systémique, est complètement oblitéré.
Donc ça veut dire qu'il faudrait prendre aussi le temps d'observer comment ces organismes modifiés agissent aussi à la fois sur la santé humaine et dans l'environnement. C'est aussi l'objet de la prudence de l'ANSES, on en parlera tout à l'heure. Vanessa Mermet, ces technologies, donc ces NGT, ces nouveaux OGM, est-ce que ces technologies sont déjà utilisées aujourd'hui par certains pays ?
Oui, il y a certaines applications, notamment au Japon. Où une tomate génétiquement modifiée en utilisant cette technologie est commercialisée à des fins thérapeutiques. Ce qu'on voit en fait qui se profile, ce sont quand même plutôt des améliorations gustatives que des traits de résilience, par exemple d'adaptabilité au changement climatique ou ce genre de choses, qui sont en fait des traits qui sont quand même très difficiles à obtenir et pour l'instant il n'y a pas vraiment d'application pour ça. Ce qu'on voit en revanche aussi, c'est qu'il y a peu d'applications vraiment prêtes à arriver sur le marché, ce qui n'explique pas pourquoi il y a une telle précipitation à déréguler au niveau européen.
En tout cas, il y a beaucoup de projets dans les cartons, à défaut de les voir déjà concrétisés. Il y a énormément de choses qui sont en cours de développement aujourd'hui dans le monde, François Parcy.
Oui, on observe dans de nombreux pays des projets, dans tout un tas de directions. Il y a un rapport, par exemple, de l'USDA américaine, là, où ils expliquent un peu les différents types de NGT qui sont dans les tuyaux, pour dire.
Donc, pour des fruits et des légumes nouveaux,
c'est
par exemple,
pour des fruits et des légumes. Ça peut être pour modifier la composition d'un fruit dans légumes, ça peut être pour modifier le moment où il va fleurir, ça peut être. Il y en a beaucoup qui sont pour des résistances, comme je le disais, à des maladies. Ouais. On peut modifier des tas de choses.
Et il y a un enjeu, évidemment, au cœur de la crise écologique qui est très important, c'est ce qu'il faut dire aussi, parce que, évidemment, le problème de l'eau, le problème de la sécheresse, tout ça, il y a une promesse aussi avec ces NGT.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'agriculture, elle fait face à vraiment de nombreux défis. Il faut qu'elle arrive à produire de façon raisonnable pour les agriculteurs, pour les consommateurs. Il faut qu'elle baisse son impact en termes de gaz à effet de serre, CO2 méthane. Et c'est possible qu'elle enfouisse aussi. Et ensuite, il faut qu'elle fasse baisser ses intrants, c'est-à-dire pesticides, engrais, eau. Et il y a des promesses, les NGT offrent des promesses dans ces différentes directions. Je ne dis pas que c'est la solution, que c'est la baguette magique, qu'on va tout résoudre, c'est absolument faux. Mais ces grands défis qui s'opposent à nous de façon relativement urgente, eh bien, moi je pense que la vitesse peut nous aider à les résoudre, parce que le changement climatique, lui, il arrive rapidement.
Et vous dites, on aurait tort de s'en priver, c'est ça au fond ?
C'est ça, je pense qu'il y a des opportunités. Mais je partage l'avis qu'il faut se poser des questions sur... Plus une technique, elle est puissante, plus elle nous donne des grandes responsabilités, donc il faut se poser toutes ces questions maintenant, bien sûr.
On va en parler dans un instant, c'est tout le sens aussi de ce rapport de l'ANSES qui dit, attention, il faut être prudent avant de s'embarquer dans ces NGT. On en discute avec vous dans un instant, c'est le dossier de la Terre au carré sur ces nouveaux OGM.
Floating en un moment avec la petite toux de Camille Cronier. C'était Bess Gibbons à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Voici des tomates que vous ne trouverez pas dans le commerce. Mais ces plantes génétiquement modifiées sont peut-être l'avenir. En enlevant un gène, cette chercheuse britannique a obtenu une variété riche en vitamine D.
C'est formidable parce que c'est très simple et très proche du type de mutation que l'on trouve dans la nature. Et nous avons produit quelque chose qui pourrait être utile dans le futur. Avec une sorte de pincette moléculaire, on peut retirer un peu d'ADN d'un gène. Et on crée un mutant comme cette tomate.
Là, la pincette, ce sont les fameux ciseaux moléculaires de la technologie CRISPR. On parle donc des NGT, les nouveaux OGM, dans ce dossier de la Terre au carré à l'instant. C'était une chercheuse, Cathy Martin, du centre John Innes à Norwich, en Grande-Bretagne. On en parle alors que les eurodéputés souhaitent déréguler donc ces nouvelles techniques génomiques avec nos invités, les biologistes François Parcy et Frédéric Jacquemart, et Vanessa Mermet de l'ONG Pollinis. Vanessa Mermet, justement, jusqu'à maintenant, donc, ces NGT étaient considérés par l'Union européenne comme des OGM, donc soumises aux mêmes réglementations. Et puis en juillet dernier, donc, la Commission européenne a décidé de remettre le sujet sur la table. Qu'est-ce qui a été décidé exactement le 7 février dernier au Parlement européen, qu'on comprenne bien ?
Alors, les parlementaires européens ont grosso modo adopté la proposition qui avait été faite par la Commission européenne. L'idée principale à travers ce texte, c'est de considérer la majorité des NGT, donc les NGT 1 dont parlait Monsieur Parcy tout à l'heure, comme des plantes conventionnelles. Donc ça concernerait à peu près 94% des plantes NGT, d'après les autorités sanitaires allemandes. Considérer ces plantes-là comme des plantes conventionnelles, cela veut dire de les exempter finalement d'évaluation des risques avant de permettre leur mise sur le marché. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'évaluation du risque potentiel sur la santé, sur l'environnement. Alors on parlait tout à l'heure d'interaction quand même possible entre ces plantes et leur environnement pour résister à des maladies, pour résister aussi à des insectes. Donc le fait de mettre en place des plantes insecticides sans prévoir d'évaluer leur impact sur l'environnement direct agricole, c'est assez dangereux. On a parlé aussi tout à l'heure des risques qui avaient été pointés par l'ANSES, mais qui a sorti son rapport après.
Malgré lui d'ailleurs.
Après ce vote, voilà exactement, qui a été bloqué un petit peu. Ça fait que le projet de réglementation tel qu'il a été voté par les parlementaires européens, il est extrêmement laxiste finalement. Il
alors, deux points très rapidement. Ces NGT1, ils appartiennent à une grosse catégorie de plantes modifiées. Ça représente quoi par rapport à les NGT2 justement?
Comme je vous disais, c'est à peu près 94% des applications en cours de développement.
Donc c'est la grosse majorité, effectivement. Et en dépit de ce vote du 7 février dernier, Vanessa Mermet, les États membres ne se sont pas encore accordés sur un texte commun. Il faut quand même le préciser aussi.
Oui, alors il faut savoir que la France est très favorable à cette dérégulation. Il est question également de ne pas mettre de clause de sauvegarde. Ça veut dire que, contrairement aux OGM donc transgéniques, où actuellement les règlements européens permettent à certains États membres de dire non, nous ne voulons pas d'OGM sur notre territoire, ou nous voulons leur appliquer des évaluations des risques complémentaires. Là, ce ne sera pas le cas. Ce n'est pas du tout prévu par le texte. Il y a des États qui sont contre ce texte. C'est notamment le cas de la Pologne ou de la Hongrie.
Oui.
La France, elle, est très favorable, en dépit d'une fronde qui a été quand même organisée à l'Assemblée nationale avec des députés de 8 partis politiques qui ont voulu en fait déposer une proposition de résolution demandant au gouvernement de ne pas soutenir ce texte comme ça sans condition.
Et donc, vous vouliez conclure ?
Oui, pardon, je pensais que vous... Et donc ce vote pour l'instant au niveau des États membres, il est prévu peut-être qu'ils en discutent le 26 mars. On ne sait pas encore quelle va être l'issue des négociations entre les États.
Alors Frédéric Jacquemart, juste un mot sur le rapport avant de passer aux questions parce qu'elles sont déjà nombreuses. Donc le 11 décembre dernier, l'ANSES finalisait un rapport d'experts qui était signé le 22 janvier dernier. Pour être transmis au gouvernement. La date était importante, parce que l'expertise de votre agence devait permettre d'éclairer la voie des eurodéputés avant le vote du 7 février. Or, sa publication à ce rapport n'a été rendue publique que le 6 mars. Qu'est-ce qui s'est passé alors pendant un mois ?
Il faudra le demander au gouvernement. Moi, je ne fais pas partie du gouvernement.
Mais qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est clairement des pressions politiques pour que le rapport ne sorte pas, puisqu'il est clairement opposé à la décision de la France.
Le rapport était sur le bureau, et j'espère sous les yeux des politiques. C'est eux qui décident de la date de publication. Le fait qu'il soit publié après le moment où il aurait dû l'être peut être interprété comme une volonté de ne pas suivre les conclusions du rapport. Ça peut être interprété aussi, selon certaines sources, comme une volonté de avaler les 300 pages du rapport. Moi, je suis pas au courant.
Ça a été bloqué, clairement.
Ça a été bloqué, et donc, ça a des conséquences, évidemment.
Qui auraient pu considérer ce rapport comme de la documentation, comme de la littérature scientifique, pouvant leur donner justement des billes pour juger précisément de ces nouvelles technologies n'ont pas eu accès, en tout cas n'ont pas voulu énoncer publiquement les conclusions de ce rapport.
Absolument, et M. Canfin a bloqué l'audition de l'ANSES par le Parlement.
Et donc on a compris que l'avis de l'ANSES était en opposition frontale avec la position défendue par la France. Camille, questions déjà.
Je vais vous en lire quatre parce qu'ils sont tous sur le même ton et ils se complètent. On a Michel qui nous écrit « L'ADN n'est pas un jeu de Lego ». François Parcy, écoutez bien parce que je vous demanderai de répondre tout à l'heure. Nanar Le Gersois nous écrit « Cette technologie va être encore récupérée par les multinationales. Le profit, encore le profit. Noël enchaîne. Confier notre alimentation aux députés européens, quelle folie. Il y a plus de lobbyistes dans les couloirs de l'Union que d'élus. plus. Les derniers scandales sanitaires devraient suffire à nous éclairer. Et enfin, Nicolas, les OGM devaient déjà résoudre des problèmes de production et ils servent essentiellement à vendre plus de pesticides auxquels ils résistent du fait du bidouillage génétique. Faut-il encore attendre de la technologie qu'elle nous sauve ? Réponse, François Parcy, puisque vous êtes en faveur donc de ces NGT.
Alors, je suis en faveur des NGT. Je pense qu'on peut pas vraiment être en faveur ou contre une méthodologie. Hein. On peut être pour ou contre son usage dans certains buts. Et donc, je pense qu'il y a des utilisations qui, effectivement, peuvent être vertueuses des NGT. Après, les questions qui sont posées, c'est des bonnes questions, bien sûr. Hein. Quand on regarde ce qui s'est passé avec les OGM, on peut se dire, est-ce que finalement les promesses des OGM, ça va être la même chose, elles vont pas être tenues. Moi, je pense qu'il y a 30 ans qui se sont écoulés, pendant lesquels la connaissance elle a progressé considérablement. Je pense aussi que les OGM, si elles ont été récupérées par une poignée de très grosses sociétés pour une poignée d'espèces, c'est aussi parce qu'elles étaient régulées extrêmement sévèrement. Et que là, il y a un rapport qui a été publié récemment où il montre que mettre une OGM sur le marché, c'est 13 ans de travail et 130 millions d'euros. Et donc, si on régule de façon très sévère ces nouvelles OGM, je pense que les mêmes causes produiront les mêmes effets. On aura un accaparement par quelques sociétés.
Sauf que François Parcy, la précision d'intervention des ciseaux moléculaires précisément, elle n'est pas parfaite aujourd'hui. On le sait bien, c'est ce que montre aussi le rapport de l'ANSES. De nombreuses études disent qu'il y a des effets hors cible non désirés. Donc c'est pas à prendre à la légère ça quand même.
Mais non, c'est pas à prendre à la légère. Mais juste pour vous donner une idée des ordres de grandeur. Quand vous faites une mutagénèse grâce à CRISPR, vous mettez quelques mutations et il va y en avoir 3, 4, 5 qui sont hors cible. Quand vous faites une mutagénèse chimique ou radiative, vous avez 5 000, 10 000 mutations. Quand vous faites un croisement entre deux variétés, vous avez 10 000, 100 000 mutations. Et les croisements interespèces qui existent aussi, ça peut être 1 million de mutations. Donc, on est en train de se préoccuper de deux mutations hors cible. C'est vraiment les ordres de grandeur. Alors que dans la nature, les mutations existent. Un hectare de blé, chaque génération, c'est 40 milliards de mutations naturelles.
Alors Frédéric Jacquemart, qu'est-ce que vous répondez à cela, puisque justement il y a cette inquiétude sur les risques liés à des modifications collatérales finalement hein, dans cette technique?
Oui, je crois qu'il y a quand même d'abord une confusion entre mutation en général et mutation intentionnelle. Ça n'a rien à voir effectivement. Dans un champ, vous allez avoir occurrence de nombreuses mutations qui ne sont pas intentionnelles. Ici, vous voulez changer tel nucléotide à tel endroit.
Avec les ciseaux moléculaires, encore une fois.
Oui, j'aime pas beaucoup cette expression.
Bah oui, mais au moins elle est claire pour le grand public.
Oui, elle est claire, elle est aussi psychanalytiquement chargée.
Hein. On fera une analyse après.
Alors. Oui, ben il faudrait la faire. Mais je dis ça parce que dans le texte de la Commission, il y a une contradiction qui est que serait dérégulé ce qui serait équivalent à des mutations spontanées. Et dans les critères, il donne moins de 20 modifications, de 20 mutations. Ça fait 400 mutations possibles, sans avoir à s'en préoccuper.
Ça, c'est ce qui justifie justement la dérégulation des NGT.
Or, pour obtenir 3 mutations données à un endroit donné, ce qui n'est pas 3 mutations quelconques, eh bien, par exemple, il faudrait examiner toute la production mondiale, par exemple, de blé, pendant 5,8 centaines de millions d'années à 1 milliard d'années, pour avoir une chance d'avoir l'événement. Alors, qu'on ne nous dise pas qu'elles peuvent se produire naturellement. C'est complètement idiot. C'est d'ailleurs ce que dit l'ANSES. Hein. Voilà. Alors, l'autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, parce qu'on dit, bah voilà, avec ça, on va pouvoir avoir des plantes résistantes, etc. Bon, si vous cultivez sur des grandes surfaces des plantes qui sont génétiquement toutes semblables, et ça va être forcément le cas des NTG, eh bien, on est certain de sélectionner un jour ou l'autre un pathogène émergent. Et le pathogène, il va trouver toute une culture qui lui convient, donc il détruit tout, contrairement à une mutation qui arrive dans un champ bio où il y a de la biodiversité, où il va détruire seulement une petite partie, et il n'aura pas beaucoup de chances de survie l'année prochaine.
On y revient dans un instant, on a toute la deuxième demi-heure pour vous laisser justement le temps de développer là-dessus, parce que c'est extrêmement important, hein, les effets sur la santé, sur l'environnement, et puis bien sûr, François Parcy, vous répondrez également à ceux qui, comme vous, sont plutôt favorables à ces nouvelles technologies.
France Inter, la Terre au carré.
14h33, on passe au vert. Camille Cronier.
Au milieu des sommets blancs des Alpes, enfin pas totalement blancs, hein, vu comme la neige se réduit en montagne à cause du réchauffement climatique, mais il y en a qui se régalaient des 12 degrés et du grand soleil à 3000 mètres d'altitude la semaine dernière à l'Alpe d'Huez, sur leur story Instagram, carrément en t-shirt ou en débardeur, émoji lunettes de soleil et ambiance. Voilà, bienvenue au festival Tomorrowland Winter, où on danse un petit peu plus qu'on ne skie, bref, on fait la teuf.
Ah, je vous explique, le gars là, il est parti pisser, il n'arrive pas à remonter tellement ça glisse. Tellement il est bourré que ça glisse, c'est qu'il n'arrive pas à remonter.
Oups, la quatrième édition s'est achevée samedi, après une semaine de DJ qui se sont relayés la journée entre midi et 17h sur les trois scènes d'altitude, sur le domaine skiable. Et notamment la plus grande, la Crystal Garden, entourée d'un aigle géant dont les ailes sont sculptées dans la neige, plus quatre autres scènes en bas dans la station qui prennent le relais à partir de 19h. Et cette année encore, le festival a fait le plein, 22 000 personnes, c'est la capacité maximum, venues pour moitié de France et donc pour l'autre moitié de l'étranger, d'autres pays européens surtout, mais aussi beaucoup d'Américains. Ce gérant de café témoigne.
Moi je voyage beaucoup aux États-Unis. Aujourd'hui, l'Alpe d'Huez est connu bien plus pour le Tomorrowland que le Tour de France.
Le tout pour 675€ la semaine, transport et hébergement non compris. Mais des packages avec avion au départ des États-Unis notamment étaient vendus. Autant vous dire que même si les festivaliers se régalent, d'autres fulminent, comme Sophie.
C'est un festival totalement indécent, c'est un festival de la démesure, de la décadence. Enfin, il y a des circonstances alarmantes. De voir autant d'insouciance, ça m'écœure.
Comment peut-on faire la fête l'air de rien dans une montagne en train de mourir? Son collectif Stop Tomorrowland Alpe d'Huez a organisé une manifestation le premier jour du festival, c'était le 16 mars, pour dénoncer un événement qui cristallise, selon eux, tout ce qu'il ne faut plus faire.
En fait, pour nous, Tomorrowland, c'est vraiment exactement ça, c'est le symbole de tout ce modèle de tourisme, de surconsommation, sur une déconnexion des enjeux économiques et écologiques et sociaux qui sont importants à l'échelle locale. Et donc, c'est vraiment un symbole qu'on aimerait abolir parce que, en fait, c'est plus possible d'avoir ce genre d'imaginaire en 2024. On a besoin d'autres choses pour nous faire rêver et on a besoin d'autres choses pour nos montagnes aussi.
Mais l'organisation belge du festival se défend. Frédéric de Jezel est porte-parole de Tomorrowland.
Je comprends, mais c'est une discussion qui va au-delà de juste de nous, juste de nous pointer du doigt, puisqu'il y a beaucoup de stations dans les Alpes qui organisent des événements, que ça soit culturel ou sportif, pour lequel les gens doivent se déplacer pour pouvoir l'assister.
Autrement dit, Tomorrowland Winter ne peut pas prendre pour tout le monde. D'ailleurs, le festival est appuyé par les commerçants de l'Alpe d'Huez.
Que du bonheur, moi j'adore Tomorrowland, vive Tomorrowland!
Et le directeur de l'Office de Tourisme, bien sûr, François Badjili, au micro de France Bleu Isère.
La fréquentation de la clientèle internationale à l'Alpe d'Huez, c'est 50%. Donc si on les écoute, il faut fermer la station. La France s'enorgueillit d'être le pays qui reçoit le plus de clientèle internationale. Et c'est bien aussi. Sinon, il faut fermer la Tour Eiffel, il faut fermer le Mont-Saint-Michel.
Alors là, ce qui pose particulièrement problème à l'Alpe d'Huez, problème aux opposants, c'est l'impact écologique du festival. La pollution sonore qui peut perturber la biodiversité, en sachant que le parc national des écrins protégé est à 500 mètres de là, et l'empreinte carbone. Voici la réponse de Tomorrowland Winter.
C'est pas toujours visible, mais les efforts y sont certainement. Ils ont des grosses infrastructures fixes existantes sur l'année, sur lesquelles nous on se greffe pour utiliser le minimum d'infrastructures mobiles, que ce soit aussi en montagne. Donc toutes les scènes sont construites sur les plateaux et les restaurants existantes. Tous les emballages sont réutilisables et recyclables forcément. Et on essaye d'utiliser un maximum d'électricité fixe qui sort du mur. Et si ça n'existe pas, d'utiliser par exemple une essence, un carburant HVO, qui est un carburant à l'huile végétale hydrotraitée.
Et pour le son, il m'a parlé de technologie qui cantonnerait le son au devant de la scène et le limiterait ailleurs. Et sur l'utilisation de l'hélicoptère, parce que oui, des hélicoptères sont utilisés pour monter certaines grosses pièces, eh ben, il m'a dit que l'hélico, c'est commun en montagne. Bref, rien qui ne convainque Sophie et le collectif, loin de là.
Oui, ça nous fait rire jaune, parce que le tri des déchets, c'est bien beau, mais quand on compare ça à tout l'impact que peuvent avoir les milliers de tonnes équivalent CO2 qui sont rejetées à cause de ce festival, par les personnes qui viennent à ce festival, qui viennent en avion, qui consomment énormément, c'est dérisoire. Enfin, nous, on qualifie ça de greenwashing. Quoi.
Greenwashing. Tomorrowland Winter a commandé un bilan carbone précis de cette édition pour pouvoir améliorer les choses, parce qu'il est censé se dérouler, ce festival, tous les ans à l'Alpe d'Huez jusqu'en 2030. À moins que le préfet n'en décide autrement, trois associations l'ont saisi. Mais hors de question d'arrêter, évidemment, pour l'organisateur, d'autant, c'est son dernier argument que...
Il y a pas mal de gens qui viennent justement sur Tomorrowland Winter qui forcément ne viendraient sinon jamais à la montagne, ne se seraient pas conscients de l'environnement dans lequel ils se trouvent. D'un côté là, on leur doit de leur dire, écoutez les gars, regarde où on est, c'est magnifique, c'est super, il faut les respecter.
Un peu comme les riches, enfin d'autres riches, hein, qui vont faire des croisières en Arctique ou en Antarctique pour voir le terrible tableau posté sur Instagram, émoji triste, émoji lunettes de soleil quand même.
Merci beaucoup Camille Crony, on peut réécouter tout ça sur franceinter.fr.
François Parcy, vous êtes dans le coin, vous êtes à Grenoble.
Je ne suis pas très loin du tout, non. Et moi je connais plus l'Alpe d'Huez pour le Tour de France que pour le festival Tomorrowland.
Qu'est-ce que vous pensez notamment de la pollution sonore, tiens, enfin des impacts éventuels sur la biodiversité, ouais, avec ce parc national des écrins à côté.
Je pense sur les plantes, c'est pas très grave. Pour les animaux, c'est peut-être différent.
Vous étiez convaincu par les arguments?
Non, moi, je trouve que le... Bon, en plus, l'Alpe d'Huez, c'est un endroit où vous avez le glacier de Sarenne qui est en train de disparaître complètement et tout. J'avoue que je suis pas très...
Ah bon, quand même. Vous pouvez pas être non seulement pour les NGT, mais en plus pour ce festival. Non.
Mais sur le... Après, l'argument, c'est pourquoi Tomorrowland et pourquoi pas tout simplement l'activité de l'Alpe d'Huez en hiver, le ski, l'industrie touristique.
On peut discuter de ça aussi. Hein. Moi, il y a des années, je fais plus de ski de piste.
Pour des raisons climatiques,
hein. Bah pas pour des raisons climatiques, parce que je trouve que voilà, se faire tirer par une ficelle et puis être au milieu de tout le monde, ça me plaît pas du tout. Donc je fais du ski de randonnée. Je trouve que ça préserve un peu mieux là. En tout cas, c'est plus en accord avec mon amour de la montagne.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce dossier sur les NGT.
C'est qu'on se rapproche de la vision. À mon avis, si c'est force, c'est qu'on avance, c'est de la fiction. À mon avis, hey, on tient la pépite sur le prochain expat. À mon avis, hey, mes rêves vont bientôt traîner avec un ex pauvre. À mon avis, si c'est force, c'est qu'on se rapproche de la vision. À mon avis, si c'est force, c'est qu'on avance, c'est de la fiction. Nouvelle expa. Tous mes rêves vont traîner en ville avec un ex-pauvre. Tranquille, hey. On fait pas un nouveau deal avec une big teuf. Je connais des refs qui comptent encore en grec. Je connais des meufs qui comptent en week 9. Qu'ils pleuvent si les têtes noches app sans modestie. Font parler mais ce qu'ils peuvent. Y'a beaucoup de docteurs, mais beaucoup non app. Tout ce que l'on prescrit, on lance des pogos de steel punk. Ils le font pour le pif, ne pour que ça découpe. J'écoute tes artistes sous-côté, le reste me dégoûte. Hey, j'ai compris, on est ce qu'on mange. Peut-être qu'on est devenu ce qu'on écoute. Je fouette les vampires comme Belmont. À mon enterrement, y'aura des vautours tristes avec de belles montres.
À mon avis,
si tu n'oublies aucun visage, c'est que tu ne connais pas assez de monde.
À mon avis, si ce corps c'est qu'on se rapproche de la vision. À mon avis, si ce force c'est que ton âme c'est de l'affection. À mon avis, nouvelle pépite, nouvelle expa. Tous mes rêves vont traîner en ville avec un ex-pauvre.
J'ai le rap qui fait checker avec la collade. Rarement danser comme Chacola.
Dans le zone. C'est qui?
La crise en fit et je me rappelle qu'on a déjà collab. Fuck frère, ils vont m'aduler. Quand ils pigeront qu'il faut faire un classement des mecs qui restent dans la durée. Dingue. T'as un cum, tu joues avec le feu. Rappelle-moi seulement si tu veux te brûler.
Les ailes.
Elle m'a dit qu'il ne se passerait que dalle. Seulement je suis chez elle.
Chez elle.
J'y suis. On devrait simplement ken. On se correspond à mon avis. T'as les cheveux noirs comme ma vie. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu le soleil.
Soleil.
Je me sens tous les jours comme si le rap m'avait volé 10 ans sommeil. J'aime pas faire ma propre promo, mais bon, j'ai pas vraiment le choix. Je m'aligne. Je vous aurais bien dit de surveiller le ciel, mais c'est pas de là que j'arrive. Non, crois-moi, c'est pas de là que j'arrive. Hey, hey.
À mon avis, si ce corps c'est qu'on se rapproche de la vision. À mon avis, si ce force c'est que ton amour c'est de la fiction. À mon avis, nouvelle pépite, nouvelle expa.
Nouvel Export, c'était Jewel Hussein à l'instant sur Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Ni dans les champs, ni dans les assiettes, les OGM, on n'en veut pas.
Aucune mesure sérieuse n'est prise en France aujourd'hui pour cataloguer ces plantes comme des OGM. Donc on ne peut plus attendre parce que le tournesol va être semé d'ici quelques jours dans les champs et on va se retrouver avec des milliers d'hectares de tournesol OGM en France qui après vont passer dans l'alimentation humaine et animale. On ne peut pas laisser faire ça.
Militante anti-NGT en 2021 à Castelnaudary, si vous nous rejoignez, on parle donc de ces nouvelles techniques génomiques présentées comme les nouveaux OGM avec nos invités, les biologistes François Parcy, Frédéric Jacquemart et Vanessa Mermet. Frédéric Jacquemart, donc, j'aimerais savoir, par rapport à ce rapport de l'ANSES dont on parlait tout à l'heure, qui donc est très prudent et qui dit attention, principe de précaution, il faut faire très attention avec ces nouvelles technologies, sur quel type d'études scientifiques justement est basé le rapport pour le dire ?
Sur les études scientifiques, l'ANSES fait une revue exhaustive de la littérature existante. Donc là-dessus, c'est tout.
Donc ça veut dire qu'on a déjà des réponses sur les impacts sanitaires, par exemple, ou environnementaux de ces NGT ?
On a une littérature tout à fait imposante, mais il y a aussi, vous savez, des questions de logique. On vous dit, on ne va pas réguler des molécules artificielles qu'on ne connaît pas encore. Bon. Vous croyez que c'est scientifique comme raisonnement ? Parce que c'est ça la décision de la Commission. Hein ? Si tous les OGM à venir vont produire des molécules nouvelles, on les regarde pas.
Et alors, sur la santé et l'environnement, on sait quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de fiable par rapport à la littérature scientifique sur l'impact de ces NGT ?
Alors,
parce qu'il y a plusieurs fruits ou légumes qui ont été étudiés.
Non, mais sur l'impact des NGT, ils n'existent pas encore. Donc, c'est un peu compliqué.
Alors, donc,
simplement, ce sont des questions de précaution. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que, il y a des nouvelles techniques qui arrivent, qui produisent des êtres artificiels. On se doit de les examiner.
Mais voilà. Il y a eu des études de cas, quand même, qui ont été faites, hein, et sur lesquelles, justement, se base le rapport. Il y a eu du riz à taille réduite, du blé à teneur plus faible en gluten, une vigne résistante à la pourriture grise. Tomate a tenu en acide aminé, donc ça a servi aussi à produire des recommandations pour le rapport.
Oui, on sait très bien que si, par exemple, vous éliminez, en faisant une plante insecticide, vous éliminez un insecte, vous allez changer l'écologie d'un autre qui va devenir pathogène éventuellement pour d'autres cultures qui ne sont pas du tout concernées mais qui se trouvent victimes de cette évolution. Parce qu'encore une fois, on est dans des systèmes complexes, on n'est pas dans un laboratoire avec des éprouvettes. Et donc tout ça, c'est documenté, bien sûr.
Vanessa Mermet, là-dessus également, sur ces risques qui sont identifiés comme ceux d'ailleurs des premiers OGM, hein, finalement.
Oui, alors un risque majeur qui a été quand même assez bien identifié avec les OGM transgéniques, c'est ce qu'on appelle les flux de gènes, c'est-à-dire une sorte de contamination génétique des plantes génétiquement modifiées vers les plantes sauvages ou vers les cultures alentours qui ne seraient pas OGM. Mmh. C'est un risque, lui, qui en fait est lié aussi à la liberté de choix et d'information des personnes ou d'ailleurs des agriculteurs, puisque ça veut dire qu'en fait, une fois qu'on fait le choix des OGM en agriculture, on ne peut plus vraiment revenir en arrière, et c'était un petit peu ce qui était dit par la militante qu'on a entendue juste avant. Mmh. C'est un risque qui est extrêmement documenté, donc c'est même pas un risque, c'est une réalité. C'est une réalité à prendre en compte et à évaluer. Ensuite, il y a eu dans le rapport de l'ANSES, alors c'est beaucoup plus précis, hein, et peut-être que du coup les autres intervenants pourront mieux vous expliquer ça que moi, mais il s'avère qu'il y a des gènes, par exemple, qui codent pour différentes fonctions, et donc modifier un gène en espérant obtenir certains traits peut aussi faire diminuer d'autres traits. Donc en fait, on risque une certaine instabilité dans les plantes qu'on va cloner finalement et planter sur des peut-être centaines de milliers d'hectares, ce qui fait qu'on va peut-être probablement affaiblir l'intégralité de nos cultures et les rendre donc moins capables de résister au stress biotique.
En tout cas, aux
ravageurs, aux maladies,
etc. Ce que dit le rapport, c'est que ces études de cas indiquent justement des risques potentiels qui apparaissent de façon récurrente dans ces études et qui sont liés à une modification inattendue de la composition de la plante pouvant générer, je cite, des problèmes nutritionnels, d'allergénicité ou de toxicité ou de risques environnementaux à moyen et long terme. François Parcy, dans la Tribune du Monde que vous avez publiée en octobre avec d'autres scientifiques du CNRS, de l'INRAE et du CEA, vous dites que le refus de ces NGT ne s'appuie sur aucune base scientifique. Or, de la science, il y en a là quand même.
Mais moi, je pense que là, on est en train de juger la méthodologie. Je pense
que c'est important.
Une méthodologie, elle peut faire des choses bien et des choses moins bien. Et le fait, ce qui est présent aujourd'hui, à la fois dans le rapport de l'ANSES et à l'Europe, ce qui est important, c'est qu'on dit on va juger au cas par cas. Et ça me semble essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, on ne bannit pas une méthodologie. On dit il faut voir ce qu'on en fait.
Oui, mais les eurodéputés, c'est pas ce qu'ils veulent là, justement, le cas par cas.
Si. Alors là, dans le rapport de la Commission, ils disent justement qu'on pourra faire des choix sur la nature. En amont, on pourra décider des OGM nouveaux là qui sont plus ou moins vertueux, on pourra le faire en amont.
Bah, a priori, précisément,
c'est exactement ça. La catégorie 1, qui représente, comme l'a dit...
94%.
C'est pas du cas par cas.
Eh bien, vous ne le regarderez pas du tout. Donc, je ne vois pas où est le cas par cas là-dedans, on ne le regarde pas. Nous, c'est
là-dessus. La dérégulation,
nous,
c'est
ce
ça.
Ce qu'on demande, c'est que ce soit régulé. On ne demande pas que ce soit interdit. On demande que ce soit régulé, qu'on regarde ce qu'on fait.
Moi, j'avais compris que le texte de la Commission européenne était assez lâche, mais que quand c'est revenu au travers du Parlement, ils avaient durci ça justement pour qu'on regarde en amont, avant la fabrication. Et aux États-Unis, ça se fait comme ça. On soumet un projet et on peut dire oui ou non, on veut de ce projet. On ne veut pas de plantes résistantes aux herbicides, on veut de plantes qui vont avoir des propriétés nutritionnelles ou des propriétés de résistance meilleures. Et ça, c'est important de faire ce cas par cas, pour avoir des choses qu'on a choisies.
En tout cas, la 2018 suffit.
En tout cas, les choses ne sont pas entérinées pour l'instant, puisque ça va encore être sujet à discussion au Parlement.
Message de Monique, ces NGT vont-ils appartenir à des firmes privées de semenciers ou seront-ils utilisables librement? Qui peut répondre à cette question? Vanessa Mermet?
Oui, alors a priori, c'est un grand débat, puisque la Commission européenne a été mandatée pour justement émettre un avis concernant la brevetabilité potentielle de ces semences, et cet avis sera rendu en 2025. Donc là encore, c'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs de décider de déréguler et ensuite s'intéresser à cette histoire de brevet. Ce qu'il faut savoir également, c'est que de toute façon, pour utiliser une technologie qui elle-même est brevetée, il faut de toute façon payer des royalties à ses détenteurs de brevets. Donc, quand bien même les semences qu'on obtiendrait à la fin ne seraient pas brevetées et bénéficieraient de la régulation sur les certificats d'obtention végétale qu'on a actuellement pour les plantes conventionnelles, par exemple, pour les fabriquer, il va falloir payer des brevets qui appartiennent à des firmes déjà, majoritairement américaines, et encore une fois, les grands semenciers mondiaux. Ce qui va se passer également, c'est que, grosso modo, des pays comme la France ne vont pas avoir beaucoup de choix là-dedans. C'est-à-dire que soit on va acheter directement les semences chez Monsanto, soit on va utiliser de l'argent public pour permettre aux semenciers français de payer les brevets qui leur permettront de développer ce type de plante chez nous. Donc dans tous les cas, il y a beaucoup d'argent public qui va être utilisé là-dedans, et ça pose quand même la question de est-ce qu'on veut finalement utiliser les fonds publics pour ça, ou est-ce qu'on veut pas plutôt soutenir les agriculteurs et les semenciers qui localement arrivent déjà à faire des plantes résistantes à la sécheresse, à sélectionner, à faire des initiatives agricoles qui sont intéressantes et qui eux demandent finalement à avoir des soutiens publics.
Frédéric Jacquemart, c'était l'autre grand volet de l'expertise de l'ANSES sur les impacts socio-économiques de ces NGT, donc particulièrement en matière de propriété intellectuelle, mais ça veut dire des choses très concrètes aussi pour les paysans.
Oui, bien sûr, parce que, comme il a été dit, Bayer et Corteva ont à peu près tous les brevets sur CRISPR, et donc, ça, quand on nous dit que ça va favoriser l'initiative, oui, de Bayer et Corteva, quoi.
Mais c'est un risque pour les paysans bio, par exemple, concrètement?
Pour les paysans bio, c'est plus qu'un risque, c'est une catastrophe, parce que comment voulez-vous qu'ils se prémunissent? Ce sera à eux de faire la preuve qu'ils n'ont pas n'ont pas été contaminés. Enfin, c'est une situation qui est tragique pour l'agriculture biologique.
François Parcy, comment on se protège de la privatisation du vivant, justement, sous forme de brevet, là, puisque l'exemple, c'est ça?
Mais à ma connaissance, en Europe, on n'utilise pas des brevets sur des variétés, hein. En France, on a le certificat d'obtention végétale. C'est lui qui est utilisé. Il permet à d'autres sélectionneurs de reprendre la semence, de la remettre dans des schémas d'amélioration. Et il y a le privilège du fermier qui permet de ressemer la semence. Donc, à ma connaissance, et ce que j'ai lu sur les directives européennes va dans ce sens, il n'est pas question de breveter les variétés.
Mais est-ce que le piège dans tout ça, le potentiel, François Parcy, piège dans tout ça, c'est que à chaque fois, au départ, l'humain se dit bien intentionné, et puis à la fin, ça crée un monstre et ça part complètement en cacahuète, quoi. Est-ce que ça serait pas un risque qu'il faut vraiment prendre en considération, ça? Parce que on se doute que personne n'a envie d'altérer tout ça, mais le problème, c'est que on maîtrise pas forcément toujours la machine qu'on a créée derrière.
Mais effectivement, dans l'édition qu'on a avec Frédéric, on a un peu l'idée que si la mutation a été choisie par un être humain, alors elle est potentiellement mauvaise, alors que si elle est arrivée au hasard, c'est une bonne mutation. Et moi, je pense que cet avis-là, il n'est pas soutenu par des faits scientifiques. Je ne pense pas qu'il y ait une différence fondamentale entre une mutation qui apparaît spontanément et une mutation qu'on choisit.
Mais là, c'est plus la technologie, la question de la technologie. On voit le monde dans lequel on vit aujourd'hui, espèce de course en avant qui est néfaste.
Alors effectivement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, comme je le disais, sa puissance, elle nous interroge sur faut-il l'utiliser ou non. On ne va pas dire non aux médicaments parce qu'il y a eu l'affaire du Mediator, on ne va pas dire non à l'Internet parce qu'il y a des sites pédopornographiques. Moi, je pense qu'il y a des opportunités et qu'il faut savoir trier le bon grain de l'ivraie, voir quelles sont les choses qui sont vraiment une grande aide à l'agriculture et aux défis que j'ai mentionnés tout à l'heure et quelles sont les choses dont on ne veut pas.
Frédéric Jacquemart, pour rebondir.
Mais pour juger de ce qu'on peut faire ou pas faire, il faut avoir une méthode qui permette de savoir si c'est compatible avec la dynamique des systèmes dans lesquels on vit ou pas. Et tant qu'on n'aura pas ça, on ne pourra pas. Donc moi, c'est ce que j'ai répondu récemment à des agriculteurs qui disaient « alors on ne fait rien ». Mais je leur dis « si, on fait ». Mais pour faire, il faut développer une analyse systémique qui nous permette de dire ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Nous ne l'avons pas actuellement. Si vous prenez une mutation spontanée, je ne suis pas d'accord avec vous du tout sur l'équivalence entre la mutation spontanée et intentionnelle, elle va apparaître d'abord à l'unité dans un écosystème qui va d'une part la permettre et d'autre part l'autoriser à survivre. Et ce sera une toute petite, une seule mutation, une seule graine, hein, qui va se trouver confrontée avec son écosystème. Elle va coévoluer ensuite avec. Hein, ce qui n'est pas du tout le cas d'une sélection en laboratoire où toutes les régulations ont été abolies. Il n'y a plus de régulation naturelle et quand on la met au champ, on la met massivement au champ. C'est pas une graine qui germe, c'est tout de suite une force énorme. Et si vous voulez, le problème, c'est la réaction du système par rapport à ces innovations. Alors, on n'a certainement pas le temps d'aborder ces questions-là ici, mais il faudrait quand même qu'on arrive à les traiter publiquement parce qu'elles ne sont traitées nulle part.
Justement, Vanessa Mermet, on se souvient des débats très houleux hein, sur les OGM de première génération. Est-ce que vous êtes surprise, au fond, que la question aujourd'hui des NGT ne suscite pas plus de réactions dans le public et de débats, précisément?
Mais je pense que la façon dont ça a été traité finalement au niveau européen, avec une précipitation énorme du temps parlementaire, qui a d'ailleurs été dénoncée par certains eurodéputés, n'a pas vraiment permis aux consommateurs, hein, même aux citoyens, de prendre conscience de ce qui se passait. On a quand même ici là l'ensemble de la filière bio qui s'oppose au projet. Il y a même eu une tribune dans la presse, des distributeurs, des enseignes bio, des transformateurs. Donc, c'est même pas seulement les agriculteurs qui s'opposent à ce projet, c'est l'intégralité de cette filière, parce que c'est une façon pour eux de perdre quand même la confiance hein, de leurs consommateurs, puisque le consommateur, in fine, ne pourra plus vraiment choisir, là, dans le modèle qu'on est en train d'évoquer. Donc, en tant que consommateur, on devrait normalement avoir aussi un petit peu plus d'informations sur ce sujet et un petit peu plus voix au chapitre. J'ajoute qu'il y avait quand même une pétition qui a été lancée dans pas mal de pays européens et qui avait recueilli 500 000 signatures. Donc, le sujet est un tout petit peu monté, mais en fait...
Très en deçà quand même de ce qu'on a vécu avec les OGM de première génération.
Véronique voudrait savoir, François Parcy, qui, à la base, a eu l'idée et pour quel usage de ces NGT, en fait ? Ça vient d'où ? Pour répondre à quelle urgence ?
C'est simplement le constat que les 10 000 ans de domestication qu'on a fait subir aux plantes, ça a été la sélection de mutations. Et dès le moment où on se rend compte qu'en fait, sélectionner un blé qui ne perd pas ses grains, par exemple, ça c'est une mutation, et bien on se dit, ben alors, puisque je connais la source de cette caractéristique-là, autant l'introduire moi-même et en profiter. C'est ça en fait l'idée, c'est juste le constat que faire des plantes cultivées, c'est sélectionner des mutations. Aujourd'hui, au lieu de les sélectionner en aveugle, on est capable de les choisir.
Donc c'est même pas pour répondre, par exemple, vous parliez tout à l'heure des problèmes de sécheresse liés au changement climatique, c'est pas forcément pour répondre à ça.
C'est pour répondre à tout ça, les grands défis, réduire les intrants. Et pour moi, en fait, je pense qu'on ne doit pas opposer du tout le bio, l'agroécologie et l'usage des NGT. Pour moi, ce sont trois choses complémentaires qui vont nous servir à résoudre nos grands défis. On ne doit pas les opposer. Et je pense même que les NGT sont plus faciles à cultiver en bio et plus faciles en agroécologie que les variétés classiques qui ont été améliorées depuis des dizaines d'années dans le contexte d'un champ plein d'intrants.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Ainsi s'achève cette émission. Pour ceux qui sont intéressés, le rapport de l'ANSES est lisible, évidemment. Il est disponible sur le site pour en savoir un petit peu plus sur les arguments justement qui préconisent la prudence. Merci Frédéric Jacquemart, François Parcy et Vanessa Mermet.